petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Le 7 septembre 2021, le pape François a annoncé la convocation d'un synode des évêques. Et alors, il est vrai que le synode des évêques, c'est pas la première fois qu'il y en a. Hein. Il y en a eu presque chaque année, même récemment. Mais là, il y a plusieurs particularités. La particularité principale, c'est que il s'agit d'un synode sur la synodalité. Alors, on pourrait croire que c'est un mauvais jeu de mots, presque comique par sa répétition, ou alors pédant, parce qu'on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Il s'agit de faire allusion à l'étymologie du mot synode, qui signifie tout simplement marcher ensemble. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est comment marche l'Église? Comment devrait-elle marcher? Et vers quoi? Vers qui doit-elle marcher? C'est la deuxième particularité. Ce synode va se faire en deux parties, une partie locale, diocésaine, nationale, où il y aura des résumés, des synthèses, qui seront envoyés à Rome, et ensuite le synode lui-même des évêques reprenant les discussions de l'ensemble du peuple catholique. Voilà donc campé l'annonce de ce synode, et qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, il s'agit bien entendu d'examiner la façon dont sont vécues dans l'Église la responsabilité, le pouvoir, le partage de la responsabilité et du pouvoir entre clergé et laïc, ainsi que les structures par lesquelles ils sont gérés. Et éviter donc qu'il y ait des abus de pouvoir qui vont parfois jusqu'à des abus sexuels, on l'a vu. Ce qu'il y a de très curieux dans cette configuration du synode, c'est que le pape François s'oppose au cléricalisme. C'est curieux parce que pendant tout le XXe siècle, les anticléricaux sont ceux qui, hors de l'Église, s'opposaient à l'Église et s'opposaient au pape. C'est ça, les anticléricaux. Or là, c'est le pape lui-même qui conteste le cléricalisme, c'est-à-dire qui conteste le fait que on aurait pu croire que l'Église se résume uniquement au clergé. Non, l'Église comprend l'ensemble des fidèles laïcs, et d'ailleurs, l'idée, c'est que tous les baptisés participent à la fonction sacerdotale, prophétique et royale, pour reprendre les termes du rite du baptême. Alors, est-ce que c'est nouveau? Alors, c'est pas forcément très très nouveau. Et justement, c'est étonnant parce que beaucoup pensent que c'est une nouveauté là, hein, de vouloir replacer les laïcs au sein même de l'Église. C'est pas nouveau. Déjà dans Vatican II, c'est annoncé, mais on peut aller jusqu'à Saint Paul, premier épître aux Corinthiens. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour ne faire qu'un seul corps. C'est dans la première épître aux Corinthiens. Et je voudrais vous lire quelques lignes des conclusions de Vatican II. Dans la constitution Lumen Gentium, lumière des peuples, paragraphe 37, écoutez bien, les pasteurs, c'est-à-dire prêtres, évêques, papes, doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l'Église, ayant volontiers recours à la prudence de leurs conseils, les conseils des laïcs, leur remettant avec confiance des charges au service de l'Église, leur laissant la liberté et la marge d'action, stimulant même leur courage pour entreprendre de leur propre mouvement, qu'ils accordent avec un amour paternel, attention et considération dans le Christ, aux essais, aux vœux, aux désirs proposés par les laïcs, qu'ils respectent et reconnaissent la juste liberté qui appartient à tous dans la cité terrestre.
Thank you.
pour les laïcs, faire église, mais dans quel but ? Et l'une des idées principales, des orientations principales, c'est la promotion, la dignité de la personne humaine, que seuls peut-être les chrétiens peuvent véritablement affirmer, même si hélas, ils ne l'appliquent pas toujours. Par exemple, dans Christi Fideles Laici, une encyclique de Jean-Paul II, en 1989, il est écrit « Quand il n'est pas reconnu et aimé dans sa dignité d'image vivante de Dieu, l'être humain est exposé aux formes les plus humiliantes et aberrantes d'instrumentalisation qui le rendent misérablement esclave du plus fort. Bref, ou bien l'homme n'a qu'une valeur marchande, fondée sur ses qualités, défauts, performances, un instrument, ou bien il a une valeur divine. Et c'est l'essentiel ici, peut-être, de l'action des laïcs chrétiens. Découvrir et faire découvrir, je cite là toujours la même encyclique de Jean-Paul II, découvrir et faire découvrir la dignité inviolable de toute personne humaine constitue une tâche essentielle et même, en un certain sens, la tâche centrale et unifiante du service que l'Église et en elle les fidèles laïcs est appelée à rendre à la famille des hommes. Je crois que là, les choses sont claires et un peu inattendues pour beaucoup de catholiques. Et alors, s'agissant donc de l'engagement et de la dignité de la personne humaine, il y a aussi la valeur de toutes les autres créatures, et pas simplement les hommes. Les fidèles doivent reconnaître la nature profonde de toute la création, c'est Vatican II qui dit ça, le Concile, sa valeur et sa finalité qui est la gloire de Dieu. Et bien entendu, il y aura en 2015 l'encyclique Laudato Si, qui va tout à fait dans ce sens. Engagement aussi, encore plus surprenant. François dit, il déclare ça à un public d'école de jésuites, à la fois élèves, parents et professeurs, en juin 2013, dont plusieurs milliers de personnes. La politique est la forme la plus haute de la charité, car elle cherche le bien commun. Les laïcs chrétiens ont le devoir de s'enfoncer dans la politique. La politique, c'est sale, mais elle est peut-être sale parce que les chrétiens ne s'y impliquent pas. Il n'est pas le premier, François, à dire que la politique est la forme la plus haute de la charité. D'autres papes l'ont dit avant lui, mais là, il l'affirme de façon aussi très très claire. Et alors, cet engagement des laïcs, ce rôle des laïcs dans la société et dans l'Église, elle est orientée comment ? Il y a là essentiellement, il n'y a pas que, mais essentiellement la doctrine sociale chrétienne. Et l'encyclique de Saint Jean 23 en 1961, mère et éducatrice, mater et magistrat, la doctrine sociale chrétienne est partie intégrante de la conception chrétienne de la vie. Ça mérite d'être signalé. Ça parle du bien commun, de la destination universelle des biens, de la dignité que j'ai évoquée à l'instant. Mais ça mérite d'être rappelé parce que c'est finalement peut-être pas assez connu dans le monde catholique et même dans le clergé catholique. Son principe de base est que les êtres humains sont et doivent être fondement, but et sujet, il s'agit de la doctrine sociale de l'Église, de toutes les institutions où se manifeste la vie sociale. Ce principe de base protège la dignité sacrée de la personne. C'est-à-dire que la vie publique, la vie sociale, ne doit pas être dirigée par des idéologies, par des soucis économiques, par des rentabilités, par le nationalisme. voit bien que ce synode qui commence, ce synode actuel, va bien dans le sens d'une démocratisation de l'Église. Mais c'est pas un fait nouveau. Déjà, Vatican II était un gros effort, et peut-être même le même effort de démocratisation de l'Église. Démocratisation, donc, oui, la place des laïcs, le partage du pouvoir décisionnel par les laïcs, oui, mais démocratie, non, l'Église n'est pas une démocratie. Parce que la vérité évangélique ne se vote pas. Alors je sais bien que les protestants peuvent le faire, mais en ce qui concerne l'Église catholique, elle est de plus en plus favorable à la diversité. Et en revanche, elle veut à tout prix éviter la dispersion, la désunion, la dissémination. Nous avons besoin de repères. Alors un certain Paul Thibon, qui est un jésuite belge, et dont les textes en ce moment circulent, y compris en Occitanie, nous raconte qu'il faut revenir aux premiers chrétiens, où il n'y a pas d'institution sacerdotale définie, où la communauté étant en démocratie directe permanente, où on change les pasteurs qui sont là que provisoirement. Bon. On ne va pas dans ce sens. Et la commission théologique internationale qui est au Vatican pense que nous avons besoin d'un processus ecclésial qui ne peut se réaliser qu'au sein d'une communauté hiérarchiquement structurée. Oui. Alors, finalement, qu'est-ce qui doit changer ? Est-ce que c'est toujours la même chose ? C'est un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent. Finalement, le synode va dans le sens de Vatican II. Oui, mais il peut y avoir d'autres changement. Moi, j'en propose deux et je n'engage que moi. D'abord, la formation des laïcs. Si les laïcs doivent prendre des décisions, s'ils doivent organiser, s'ils doivent faire partie de la gouvernance de l'Église dans les paroisses, dans les diocèses, eh bien, il faut d'abord qu'ils soient formés. Et je crois qu'ils sont loin de l'être. Nous, je fais partie des laïcs, nous sommes loin de l'être. Et là, il y a un gros effort à faire, même si la formation a quand même commencé. Et puis, l'autre réforme, peut-être, qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est augmenter davantage, bien davantage, le nombre de diacres pour seconder les prêtres, d'une part. Il y a une ordination des diacres, hein, ce ne sont pas des laïcs. Il y a une ordination des diacres. Ils peuvent être mariés, mais il y a une ordination des diacres. Alors, ils n'ont pas autant de pouvoir sacramentel que les prêtres, loin de là, mais ils peuvent seconder les prêtres et servir d'intermédiaire entre le clergé, d'intermédiation du moins, entre le clergé et les laïcs. Je crois que ça reste dans le domaine du possible. Et ce diaconat, dans mon esprit, pourrait être ouvert aux femmes. Je vois pas pourquoi il serait fermé aux femmes qui prennent tant de responsabilités dans l'Église aujourd'hui.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.